Un voyage au cœur des ruches et dans l'imaginaire des abeilles, ce sera dans le dossier de La Tête au Carré cet après-midi. Deux frères, Pierre-Henri et François Tavoyot, l'un philosophe et l'autre apiculteur, ont remonté l'histoire des mythes pour comprendre pourquoi l'abeille, qui fascine depuis l'Antiquité, reste aujourd'hui un insecte avec un statut tout à fait à part dans le monde animal et dans son rapport aux hommes. L'inquiétante situation face à la disparition des abeilles n'est pas récente, c'est ce qu'on verra, et c'est au cœur du microcosme de la ruche que nous allons plonger dans quelques instants. Le dossier étant enregistré, nous ne pourrons pas répondre à vos messages comme d'habitude. La fin d'un mirage climatique, c'est à la une de la science aujourd'hui. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu. Depuis le dernier rapport du GIEC, les experts affirment, sans forcément l'expliquer, que le réchauffement climatique ralentit. Une publication récente montre que ce ralentissement est une pure fiction, une simple erreur dans les mesures. On en parle dans un instant avec nos invités pour la une.
Violaine Ballet réalise cette Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati, Anne-Cécile Perrin et Thomas Delosier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
L'abeille et le philosophe, un voyage étonnant dans la ruche des sages. C'est un livre qui sort chez Odile Jacob, écrit par Pierre-Henri et François Tavoyot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Pierre-Henri Tavoyot, le jour où l'abeille disparaîtra, l'humanité n'aura plus que 4 ans à vivre. Alors cette formule ultra célèbre a toujours été attribuée à Albert Einstein. Et le physicien, évidemment, n'était ni biologiste ni prophète. Est-ce qu'il a vraiment prononcé cette phrase?
Alors probablement pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune trace réelle de l'authenticité de cette phrase. Elle apparaît dans les années 92, donc Einstein était mort depuis très très longtemps. Ce qui est intéressant, c'est justement pourquoi on a attribué à Einstein cette phrase. Et là, il y a quelque chose de très profond. C'est pourquoi la conscience morale et la conscience scientifique de la modernité, on a eu besoin d'y faire référence pour parler de la disparition de l'abeille.
Ouais, c'est donc 1994 qu'apparaît cette phrase dans un pamphlet de l'Union nationale d'apiculture française. Donc ça n'a rien à voir, a priori, avec Albert Einstein, mais tout le monde s'en est emparé. François Tavoyot, les abeilles donc, sont des insectes qui symbolisent vraiment bien aujourd'hui les menaces qui pèsent sur la biodiversité, avec les peurs aussi que ça suscite. Pourquoi justement, selon vous, cet animal a cristallisé autant l'intérêt des hommes sur le sort des espèces animales?
Alors disons que l'abeille, depuis la plus haute antiquité, même depuis la mythologie, apparaît comme une sorte de reflet de l'humanité. Disons que comme l'homme, elle vit dans une sorte de cité, qui est la ruche, comme l'homme, entre guillemets, comme l'homme, elle récolte, elle transforme, elle stocke. Par ce biais-là, elle est productrice d'une sorte de produit, de deux produits, le miel et la cire, qui sont tous les deux imputrescibles, donc qui apparaissent comme une sorte de gage d'immortalité. Oui. Donc c'est ce côté miroir de l'humanité, en fait, qui fait qu'on se trouve particulièrement sensibilisé à ce qui peut la menacer. Parce que si ce qui symbolise l'immortalité disparaît, que va-t-il advenir de nous ?
On en reparlera avec vous tout au long de cette émission. Et puis Pierre-Henri Tavoyot, tant qu'à faire, on va essayer de faire le buzz sur Internet avec ce sujet sur les abeilles. Et on apprend justement que le buzz, c'est lié directement au vol des abeilles.
C'est le bzzz de l'abeille, ouais.
C'est ça, hein.
Beaucoup d'expressions, drone, enfumée.
Exactement.
Examen aussi. L'examen, c'est l'essaim en latin. Et donc quand on passe un examen, c'est les idées qui sortent.
Et on va se retrouver donc dans un instant autour de ce livre, L'abeille et le philosophe. Jusqu'à maintenant, les scientifiques l'appelaient le hiatus climatique. C'est aujourd'hui la une de la science.
Que fait la température de la Terre? Eh bien, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, selon la façon dont on traite statistiquement les courbes et selon les organismes qu'on retient, il n'y a plus de réchauffement. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu, ça dépend des mois, ça dépend des années, mais essentiellement, c'est plat.
Voilà, et ça c'était le fer de lance des climato-sceptiques. Vous entendiez à l'instant la voix de Bernard Ritot. Cette incohérence de mesure qui laissait entendre que depuis 10 ans, le réchauffement climatique ralentissait, n'était en fait qu'une erreur. La revue Science vient de publier une étude importante et attendue qui vient mettre fin à ce mystère. Pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Hervé Douville, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche à Météo France, et puis Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Hervé Douville, quelles sont les conclusions de cette nouvelle étude et en quoi sont-elles importantes aujourd'hui pour la question climatique?
Alors, que nous dit cet article? Il nous dit grosso modo que lorsqu'on applique un certain nombre de corrections, notamment aux températures de surface de la mer observées depuis la fin du 19e siècle, que l'on inclut un plus grand nombre d'observations de température à la surface des continents, et que l'on prolonge les séries observées jusqu'en 2014, eh bien on ne peut plus, comme le faisait le rapport du GIEC rédigé en 2012, conclure un ralentissement récent du réchauffement global, en tout cas par rapport, disons, à la période 1951-2012.
Et si on a appliqué des correctifs, ça veut dire qu'il y avait des erreurs? D'où venaient ces erreurs?
je voudrais vraiment défendre le GIEC dans cette histoire parce qu'à mon sens, le GIEC ne s'est pas trompé pour au moins trois raisons. D'abord, le GIEC avait noté le caractère très incertain du réchauffement global que l'on peut estimer sur 15 ans et notamment sur les 15 dernières années disponibles et ne disposait pas de l'intégralité des corrections qu'il fallait apporter aux observations pour commenter à bon escient les tendances récentes. Ensuite, le GIEC ne pouvait pas faire l'impasse en termes de communication sur ce sujet parce qu'évidemment, il aurait été accusé par les climato-sceptiques de dissimuler une vérité dérangeante. Enfin et surtout, le GIEC a toujours dit qu'il fallait considérer avec beaucoup de prudence les tendances estimées sur une ou deux décennies, dans la mesure où elles ne reflètent pas uniquement la réponse du système climatique au forçage anthropique, en premier lieu les émissions de gaz à effet de serre, mais elles relèvent également de la réponse du climat à d'autres forçages, par exemple des éruptions volcaniques, fussent-elles mineures, et surtout de la variabilité interne du climat, indépendamment de tout forçage. On peut citer par exemple le phénomène El Niño dans le Pacifique tropical qui refait aujourd'hui parler d'huile et dont on sait qu'il module la température du globe à l'échelle interannuelle.
Valérie Masson-Delmotte, donc aucune pause dans le réchauffement climatique, c'est ce que nous dit cette étude de Science. C'est important évidemment.
Alors d'abord, moi, je voudrais aussi préciser un point, c'est que le terme de hiatus, il souligne le fait que du fait des émissions de gaz à effet de serre, on a un déséquilibre des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace qui se poursuit. On a un système climatique qui continue à accumuler de l'énergie, mais sur une certaine période, en l'occurrence entre 1998, un pic de chaleur dû à un événement El Niño, et 2012, cette accumulation d'énergie n'apparaissait pas dans l'évolution d'un des indicateurs du climat, la température moyenne à la surface de la Terre, mais on voyait bien la poursuite d'une accumulation d'énergie en profondeur dans les océans, de même qu'une poursuite de la montée du niveau des mers qui reflétait la fonte des glaciers et la dilatation thermique des océans.
Donc cette étude ne vous surprend pas donc, hein ?
Non, c'est une étude qui n'est pas surprenante, d'autant plus qu'auparavant, on a également d'autres études intermédiaires qui avaient montré que dans les données météorologiques et les données de température de surface des océans qui sont utilisées pour cet indicateur température moyenne à la surface de la Terre, on avait un biais dans la mesure où le nombre de stations météorologiques en Arctique est relativement réduit. Or, c'est une des régions qui s'est le plus réchauffée au cours des derniers 20 ans. Donc le fait de manquer d'informations dans cette région-là conduisait à une légère sous-estimation de l'ampleur totale du réchauffement.
Donc ça veut dire que c'est quand même très difficile de déterminer précisément les causes du réchauffement sur une période courte de temps ?
Alors en fait, dans les variations de la température moyenne à la surface de la Terre, d'une année à l'autre, ou sur des périodes relativement courtes, moins d'une vingtaine d'années, on a bien sûr les termes qui vont jouer, ce sont les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace, mais aussi la répartition de l'énergie accumulée entre l'atmosphère et les océans. C'est ce que Hervé tout à l'heure décrivait avec le terme de variabilité interne au système climatique. Et pour continuer en fait à décrire donc ces évolutions très récentes sur les derniers 15 ans entre 2000 et 2014, on voit par exemple que par rapport aux 50 ans précédentes, le réchauffement est particulièrement prononcé autour de l'Arctique, mais il est particulièrement réduit sur les continents à environ 45 degrés de latitude nord. Donc à cette échelle de temps-là, on a une superposition d'une tendance lente, pilotée par l'influence de l'homme, mais aussi une variabilité importante d'une année à l'autre et même d'une décennie à l'autre, du fait de processus internes à la variabilité océan-atmosphère.
Hervé Douville, quand on essaie d'estimer à 10 ans, est-ce qu'on ne mélange pas un peu météo et climat ?
Alors, on est au-delà de la météorologie à 10 ans, mais néanmoins, comme le disait Valérie, on mélange plusieurs échelles de temps, celles qui sont vraiment intrinsèquement liées à ce qu'on appelle les forçages anthropiques, c'est-à-dire le fait que les gaz à effet de serre émis par l'homme ont vocation à s'accumuler dans l'atmosphère et que ces émissions cumulées influencent directement la température du globe, et d'autres échelles de temps où interviennent d'autres forçages qui sont, par exemple, plus sporadiques, comme les éruptions volcaniques dont je parlais, par exemple, la dernière éruption majeure, pardon, l'éruption du Pinatubo en 91 a modulé sensiblement le réchauffement, et aussi donc des phénomènes intrinsèques au système couplé océan-atmosphère. Comme le disait Valérie, on a des échanges en fait de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. On dit grosso modo que 90% de l'énergie piégée par effet de serre croissant dans le système climatique se retrouve dans l'océan. Et donc, par exemple, le phénomène El Niño, qui est aussi connu sous le nom d'oscillation australe pour sa manifestation atmosphérique, ce phénomène, finalement, a vocation à transférer de la chaleur de l'océan vers le continent lorsqu'il est dans l'atmosphère lorsqu'il est dans sa phase chaude. Et c'est pourquoi, en fait, il faut, Si on devait tirer une leçon de cette controverse apparente sur le hiatus, moi j'en vois au moins une, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait attendre de l'accroissement des concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre, en fait on n'a pas vu d'accélération du réchauffement. Ce papier nous dit, certes, il n'y a pas eu de pause réelle, ni même de ralentissement, mais ne dit toujours pas qu'il y a eu accélération. Et s'il n'y a pas eu accélération du réchauffement global depuis le début du XXIe siècle, c'est très probablement, au vu des travaux récemment effectués par la communauté, des modélisateurs du climat, que la variabilité interne a joué dans le sens d'une limitation du réchauffement. Ce qui signifie que nous devrions malheureusement être confrontés prochainement à un phénomène de rattrapage. Et finalement, ça veut dire qu'on devrait être confronté à une accélération du réchauffement global au cours des prochaines décennies.
Valérie Masson-Delmotte, est-ce qu'une publication comme celle-là ne finalement donne pas raison à une des thèses des climato-sceptiques avec la difficulté de faire des estimations à court terme sur l'évolution climatique ?
Alors, en ce qui concerne l'évolution à court terme du climat, c'est un objet de recherche extrêmement important. On sait bien que sur le long terme, son évolution, elle est dominée par le bilan des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace. Mais à court terme, on a un rôle déterminant de cette variabilité interne. Pour la première fois, par exemple, dans le 5e rapport du GIEC, il y avait un chapitre qui portait justement sur les recherches émergentes visant à avoir construire une prévision de l'évolution du climat à l'échelle de moins de 30 ans, alors que pour le plus long terme, on parle de projection. Et en ce qui concerne donc cette capacité de prévision à relativement court terme, elle va dépendre de notre capacité déjà à observer en temps réel l'état de l'océan en surface mais aussi en profondeur. Et puis ensuite, en intégrant ces observations, arriver à anticiper sur quelques semaines, quelques années, sur son évolution. Et si par ailleurs on a des forçages supplémentaires qui agissent sur le climat, tout à l'heure Hervé a parlé des éruptions volcaniques, on a une capacité, si on a une éruption volcanique importante, à arriver à affiner finalement ces calculs pour guider l'adaptation possible sur des échelles de temps qui peuvent aller jusqu'à quelques années, voire quelques dizaines d'années dans certaines régions.
La COP21 va se tenir en fin d'année. Est-ce que ça a du sens, au vu de ces résultats, de tenir des objectifs à court terme ? On ne saura pas si l'impact est celui souhaité.
Alors le seul objectif qui existe en matière de gouvernance du climat, c'est l'objectif politique que se sont fixés les Nations Unies suite à l'accord de Copenhague de 2009, c'est-à-dire de limiter l'ampleur du réchauffement à 2 degrés, c'est-à-dire par rapport au climat du 19e siècle. C'est le seul objectif pour le moment qui existe. Le lien entre les émissions cumulées de gaz à effet de serre et l'évolution du climat, elle joue sur le long terme, c'est-à-dire c'est le cumul des émissions de dioxyde de carbone au premier ordre, passées, présentes et futures, qui va conditionner l'ampleur du réchauffement à venir. Et en gros, si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport au 19e siècle, il faut qu'au lieu d'augmenter chaque année, les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines se stabilisent au plus vite, d'ici une dizaine d'années, diminue ensuite fortement et soit quasiment nul à la fin de ce siècle. Et c'est uniquement cette trajectoire-là qui permettrait de limiter l'ampleur du réchauffement à peu près au rythme actuel d'ici à 2050 et puis stabiliser cette évolution du climat.
Trajectoire qui sera évidemment très difficile, on le sait tous déjà, à tenir. Merci beaucoup en tout cas Hervé Douville et Valérie Masson-Delmotte pour vos explications, donc pour commenter cette étude importante parue samedi à Axel dans Science et qui indique qu'il n'y a pas eu de pause autour du réchauffement climatique ces dernières années.
Qui tire un trait sur ce mystère.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci, au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
Axel, on réécoute évidemment la Une de la Science comme toujours.
En podcast tous les jours sur le site franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs du département d'astronomie de l'Université de Columbia aux États-Unis ont réussi à mesurer la masse de la Voie lactée. Et comme on pouvait s'y attendre, la réponse est 42, plus précisément 42 milliards de milliards de milliards de milliards de kilogrammes. Pour en arriver à ce résultat, les astronomes ont d'abord mesuré la masse d'un amas d'étoiles appelé Palomar 5, puis grâce à des simulations, ils ont estimé celle du reste de la Voie lactée. Leur fourchette d'erreur est quand même de 20%, mais c'est un record de précision pour une telle galaxie. Votre mémoire virale contenue dans une goutte de sang, c'est sur ce principe que repose VIRSCAN, un test développé par des chercheurs de Boston. Le sang contient les anticorps des virus qu'il a combattus. En les isolant, les médecins peuvent facilement dresser un bilan de santé présente et passée de leurs patients. Après avoir testé sur plus de 500 personnes à travers le monde, VIRSCAN rate encore certains parasites. Les chercheurs travaillent donc à le rendre plus fiable. Et puis pour finir, voici une recette peu commune. Achetez une boîte de pétri, ajoutez-y un milieu de culture, demandez à votre enfant de poser sa main après avoir par jouer dans le parc, incuber l'assiette à 37 degrés pendant 24 à 48 heures et puis laisser-la reposer à température ambiante pendant plus de 3 jours. Voici le processus que s'est amusé à suivre un professeur de microbiologie sur son blog. Le résultat donne une empreinte palmaire bactériologique magnifique que vous pouvez retrouver en photo sur la page Facebook de La Tête au Carré. Allez au pays des abeilles dans un instant. Waiting for my man avec The Velvet Underground sur France Inter et Lou Reed.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
L'abeille et le philosophe, un étonnant voyage dans la ruche des sages. C'est donc ce livre qui paraît chez Odile Jacob, un ouvrage écrit à quatre mains par les deux frères Tavoyot. L'un est philosophe à la Sorbonne et amateur de miel, c'est ce qu'on lit sur la biographie, Pierre-Henri. Et l'autre, François, apiculteur professionnel en Haute-Loire. Ils sont donc les invités de La Tête au Carré pour un voyage historique, philosophique dans les ruches de la pensée occidentale. Et comment justement Pierre-Henri Tavoyot est né pour vous l'idée de ce voyage avec votre frère François autour des ruches?
On y réfléchissait il y a une vingtaine d'années.
Déjà hein.
Ouais, on discutait ensemble, parce que François fait des études de philosophie, donc on discutait autour d'une bonne bouteille, d'une bonne bouffe en Haute-Loire. Et l'idée est venue, à partir d'un certain nombre d'exemples, de se dire que la philosophie avait beaucoup de choses à voir avec l'apiculture. Et surtout, les philosophes avaient très souvent utilisé l'abeille, le miel, comme manière de penser. Et en creusant un peu, ça a duré 20 ans, on s'est aperçu qu'il y avait matière à faire une véritable histoire de la philosophie en suivant le vol subtil de l'abeille, d'Aristote à aujourd'hui l'hypermodernité, et qu'à chaque fois l'abeille était présente, en plus dans des moments qui n'étaient pas anecdotiques de l'histoire de la philosophie, mais des moments vraiment massifs, majeurs. Les grands auteurs, les grands textes, les grands événements, à chaque fois on retrouvait dans un coin l'abeille comme un élément tout à fait essentiel.
Ouais, avec des symboles extrêmement forts, on va en parler avec vous dans un instant. Et donc François, 20 ans de réflexion, c'est ça? Mais comment vous avez écrit ensemble?
On a butiné en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que le travail apicole fait qu'on est très occupé sur certaines périodes de l'année, en ce moment.
Ouais.
Tout l'été, le parti de l'automne.
Combien est-ce que vous avez de ruches?
250 ruches.
Ouais.
Donc, c'est pas une exploitation énorme, mais bon, ça demande à s'en occuper. Par contre, l'hiver, on a de quoi réfléchir, on a de, un certain temps. Et du coup, ça a été ce rythme-là qui a fait qu'on a pu travailler en se rendant des visites entre frères.
Ce qui est
plutôt agréable.
Ouais. Ouais. Et donc, vous avez écrit certaines parties, chacun de votre côté.
Oui, il y a des parties qui correspondaient plus au centre d'intérêt de l'un ou de l'autre. Donc, on travaillait. Après, on s'est corrigé mutuellement.
Oui, il y a beaucoup de choses qui étaient d'ailleurs, les deux compétences étaient absolument indispensables, parce que il y a beaucoup de chercheurs, d'hommes de lettres qui ont réfléchi sur les abeilles, de philosophes, mais c'est vrai que la compétence technique est indispensable. Mais une compétence technique au plus près, c'est-à-dire François a aussi contribué beaucoup à écrire, hormis les chapitres, ce qu'on appelait des butinages dans le livre, qui sont des petits encadrés techniques où on raconte vraiment la vie de l'abeille. Parce
absolument.
Qu'on s'aperçoit qu'au fond, c'est quand même ça qui intéresse. C'est comment ça marche.
Parallèlement à la mythologie, parallèlement à la philosophie, effectivement, on est dans le concret aussi d'une ruche et d'un animal. Hein.
Alors, il y a le côté pratique de l'apiculteur. Et ça, on s'est rendu compte qui avait des connaissances techniques très pointues dès l'Antiquité. Il y a un auteur qui s'appelle Columel, un agronome romain, qui décrit de l'élevage de rennes, des techniques que je croyais avoir existé qu'à la fin du XVIIIe siècle, et en fait qui étaient déjà présentes à cette époque-là. Donc il y a aussi, donc chez l'abeille, il y a tout l'aspect symbolique et métaphorique, mais il y a un intérêt aussi au niveau, je vais faire un jeu de mots, épistémologique. C'est-à-dire que la connaissance de l'abeille développe un petit peu le progrès de l'histoire des sciences de la nature. Et ça, c'est un aspect qui est très intéressant, quoi, de voir comment émerge cette science de l'abeille, entre guillemets.
Exploration donc méliso-philosophique dans ce livre. Et c'est vrai, une abeille, Pierre-Henri Tavoyot, qui est omniprésente dans la plupart des moments clés, c'est ce que vous disiez, de l'histoire de la pensée occidentale.
Si on part d'Aristote, qui est le grand auteur de cette affaire, c'est vrai que ce qui nous a beaucoup surpris, c'est que Aristote a beaucoup écrit sur les êtres vivants, sur les animaux. Mais quand on fait le compte de tous les animaux dont il traite, l'animal dont il parle le plus après l'homme,
c'est l'abeille.
Ouais. Et de très très loin. Et alors donc on se dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Aristote parle autant de l'abeille? Et la réponse en fait est assez simple et assez profonde, même très profonde. C'est que Aristote considère que la ruche est une espèce de microcosme. Et il faut bien avoir en tête que le mot cosmos en grec, c'est vraiment l'harmonie du monde, un monde parfait, organisé. Et en explorant la manière dont ce microcosme est constitué, Aristote se dit qu'il va comprendre le grand cosmos. Donc la recherche n'est pas du tout gratuite. C'est une abeille, j'allais dire, métaphysique. C'est-à-dire expliquer le monde, le petit monde, pour expliquer le grand monde. Et il y a un point qui le fascine littéralement, et c'est un point qui va fasciner toute l'histoire de la philosophie, c'est qu'il y a dans la ruche un ordre, mais à la fois une diversité. Et c'est ça qui distingue de tous les autres insectes et qui le rapproche de l'homme. Il y a effectivement la reine, il y a l'ouvrière et il y a le faux bourdon. Et Aristote considère que ce sont trois espèces différentes. Donc cette diversité au sein d'une communauté, c'est unique. Et on ne sait pas en plus comment ils se reproduisent.
Oui.
Alors ça, c'est le grand mystère, parce qu'on n'a jamais vu d'abeilles copuler entre elles. La solution sera donnée beaucoup plus tard, au XIXe siècle. Et donc, on ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Et Aristote se dit, si j'arrive à résoudre ça, comment une chose peut produire son contraire, ou en tout cas une diversité, comment tout ça est organisé, peut-être que le secret du monde sera à portée de main.
François Tavoyeux, il était apiculteur lui-même, Aristote, ou pas? Est-ce qu'il avait ses propres ruches?
Alors, je ne sais pas s'il avait ses ruches, mais il y a des observations qui sont tout à fait pertinentes. Enfin, un exemple, une ruche privée de rennes, on va trouver des faux bourdons. Il y a plus d'ouvrières, mais il y a des faux bourdons. Donc ça, c'est quelque chose qu'il avait observé. Donc il va utiliser pour essayer de décrire ce mode de reproduction d'espèces différentes à l'intérieur de la ruche. Ses conclusions seront pas tout à fait exactes, mais je veux dire qu'il a quand même des éléments d'observation qui sont tout à fait fiables.
Ouais. Pierre-Henri Tavoyeux, il qualifie justement l'abeille d'animal prudent et d'animal politique aussi.
Alors prudent au sens d'Aristote, c'est-à-dire la prudence, c'est le caractère adapté d'une action. Un prudent, c'est pas quelqu'un qui prévoit simplement l'avenir ou qui se méfie des choses, c'est quelqu'un qui est capable d'adapter son comportement à des situations. Donc l'abeille, de ce point de vue-là, est beaucoup plus prudente, dit Aristote, que la plupart des mammifères. Elle est assez proche, phronimos en grec, assez proche de l'homme. Elle est politique. Alors politique, pas au même sens que l'homme, parce qu'elle est naturellement politique. Alors que l'homme a besoin d'une construction artificielle. C'est pour ça que d'ailleurs que la cité des hommes fonctionne beaucoup moins bien que la cité des abeilles, qui est parfaite et presque sans trouble. Et il ajoute quelque chose de très troublant, c'est que l'abeille est un animal divin, est un insecte divin. Alors divin, pour Aristote, ça veut dire justement... Le divin, c'est l'immortel pour les Grecs. C'est pas le dieu chrétien encore. Donc c'est immortel. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui relève de l'immortalité. Et on retrouve ce que disait François tout à l'heure sur la cire et sur le miel, qui est l'aliment putrécible. On pensait, justement, le miel était une, peut-être dis-le François, une rosée.
On va développer un petit peu, alors, parce que chez Aristote, on trouve deux choses à propos de l'origine du miel. Enfin, ce qui paraît apparemment deux choses. À certains endroits, on voit que les abeilles, c'est écrit, butinent les fleurs. Puis à d'autres endroits, il est écrit que le miel, c'est une rosée céleste que les abeilles recueillent sur les feuilles, sur les végétaux. En premier temps, c'est dit, bon, c'est un ouvrage collectif, c'est pas forcément très cohérent. Et puis après, on a eu la solution chez Pline, en fait. Pline, en fait, explique le processus. Et c'est intéressant parce que ça montre de quelle façon le ciel et la terre interréagissent chez Aristote et puis donc chez les anciens. En fait, le miel tombe bien du ciel, mais au fur et à mesure de sa descente donc sur la terre, il va petit à petit se corrompre, et les fleurs ne seront qu'un réceptacle. Et en fait, chaque fleur va imprimer son odeur, sa couleur, et du coup, on aura différents miels.
Mais ça tombe du ciel, et donc c'est ce qu'on appelle toujours la manne.
La manne, oui.
C'est-à-dire vraiment l'idée qu'il y a quelque chose des dieux, de nourriture des dieux qui nous vient à travers le miel. Ce qui explique que le miel ne pourrit pas.
Et il y a aussi cette idée de virginité hein, autour des abeilles, justement en relation avec ce mystère de la reproduction de ces animaux. Hein.
Oui, comme la reine, et on ne voyait pas tellement comment les abeilles se reproduisaient. Alors, il faut donner la solution tout de suite, on le sait aujourd'hui. Et en fait, la reine est fécondée par des bourdons d'une ruche voisine en plein vol. Donc c'est une opération qui se passe discrètement. Au cours de cette fécondation, la reine emmagasine dans une spermathèque tout le sperme de sa carrière de reine, de pondeuse. Donc c'est assez discret. Ça a été filmé récemment par un très bon film qui s'appelle Les abeilles et les hommes.
Absolument.
Qui était avec un petit...
C'est une prouesse hein, d'ailleurs.
C'est une prouesse technologique.
De pouvoir filmer ça.
Avec un drone.
Avec un petit drone.
Ouais.
Drone, c'est bourdon en anglais. Hein, donc
ouais.
C'est ça qui est amusant. Et donc, voilà, ça on sait, on connaît la solution. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Et donc, on a très longtemps pensé que la reine était vierge, puisqu'on ne la voyait jamais copuler. Et donc, elle produisait d'une certaine façon les œufs, ou même pas d'ailleurs.
Ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs.
Ce qui n'est pas tout à fait faux.
Parce que les mâles de la ruche naissent à partir d'un ovule. Donc, je veux dire que la parthénogenèse, chez les insectes, ce n'est pas quelque chose d'absurde. Simplement, c'était un petit peu amplifié à toute la ruche.
Allez, on vous retrouve dans un instant, l'abeille et le philosophe. On va parler bien sûr aussi de la fragilité de ces insectes et puis des problèmes de l'effondrement de ces populations. On sera en ligne également avec un autre apiculteur, Régis Lipinois, qui lui est apiculteur à Fouras, en Charente-Maritime.
at which a bee man come back home. As would you please, ma'am, come back home. Have called your little heart dumb. Would you please, ma'am, come back home?
Real Blues, Saint-Germain sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Pierre-Henri Tavoyot, François Tavoyot, les deux frères, donc ensemble pour ce livre, L'abeille et le philosophe. C'est chez Odile Jacob, pour parler donc de l'abeille de façon concrète au sein de la ruche, pour mieux connaître cet insecte, mais également l'évoquer tout au long de l'histoire de la philosophie et de la pensée occidentale. À quel moment, François Tavoyot, l'abeille devient l'emblème de la fragilité du monde aussi?
On peut dire que ça a commencé très tôt, en fait, parce qu'un des mythes fondateurs, c'est le mythe d'Aristée. Dans ce mythe, il y a l'histoire d'une disparition des abeilles. Donc Aristée, on peut dire que c'était un petit peu l'équivalent agricole de Prométhée. Donc c'est lui qui a enseigné l'agriculture et puis surtout l'apiculture aux hommes. Donc ces abeilles disparaissent, donc il fait une enquête. Et la raison, c'est qu'il est responsable, de façon certes indirecte, mais de la mort d'Orphée le poète. Donc un des enseignements qu'on peut tirer de ce mythe, c'est que si l'apiculteur, agriculteur cause la disparition de la poésie, les abeilles vont disparaître.
Oui.
Le lien entre la disparition des abeilles et certaines attitudes humaines se trouve là dès le départ.
C'est ça.
Et on peut dire aussi que la position intermédiaire des abeilles, enfin un des lieux où elles jouent ce rôle intermédiaire, c'est entre nature et culture. Je veux dire que elles symbolisent, je veux dire, cet équilibre très très fragile entre la nature et la culture, entre la démesure qu'on peut avoir prométhéenne justement par rapport à la nature, ou un excédent de culture.
Pierre-Henri Tavoyot, on voit bien vraiment aujourd'hui que cet animal concentre toute l'attention et symbolise ce problème justement de la fragilité du monde.
Oui, parce que c'est effectivement quelque chose, un animal qui est sans arrêt sur l'équilibre, et donc c'est le reflet du cosmos, c'est le baromètre du destin de l'humanité, et l'humanité est constamment tentée de projeter sur l'abeille ses propres craintes. Si on fait le repérage de toutes les craintes aujourd'hui qui pèsent sur les abeilles, l'invasion du frelon asiatique, voilà, on a toutes les angoisses d'aujourd'hui.
Des sociétés humaines.
C'est le péril jaune, le réchauffement climatique. Alors ça ne veut pas dire que
qu'elles sont pas réelles.
Que ces menaces ne sont pas réelles, mais disons leur projection en augmente la puissance. Et l'abeille, encore une fois, c'est vraiment le seul animal qui va faire systématiquement, quatre fois dans l'année, vous en êtes sûr, la une des journaux,
on va parler d'elle. François Tavoyot, justement, vous, à votre niveau d'apiculteur, donc en Haute-Loire, vous avez 250 ruches, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Cet effondrement des populations d'abeilles, vous l'observez à l'échelle de votre région ou pas ?
Alors, je parlerai pas d'effondrement, en fait. Il y a eu des effondrements sur certains secteurs, de très grandes cultures, de choses comme ça. À notre niveau, on parlera plutôt de surmortalité. Oui. Et effectivement, je veux dire, depuis mon installation, en fait, c'est quelque chose qu'on a vu s'accroître avec deux causes, à mon avis, majeures. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Mais la première, c'était l'arrivée d'un parasite qui s'appelle Varroa, qui est un acarien et qui parasite l'abeille et qui a un rôle très, très négatif. Et la deuxième, c'est dans les années 90, la généralisation des semences enrobées. C'est-à-dire que pour les cultures, le pesticide utilisé n'est plus répandu sur la culture, il est directement sur la semence. Mmh. Il y a eu un effet, je veux dire, d'une généralisation totale de ces produits, avec comme conséquence, enfin maintenant c'est complètement établi, que même à dose très faible, il a une action, disons, neurologique sur les abeilles, donc qui va perturber leur capacité d'orientation, leur capacité de communication. Et comme l'abeille, au niveau immunitaire, c'est pas un animal très doué, on le trouve déjà aussi dans les descriptions d'Aristote.
Ça a des conséquences tout à fait immédiates.
Mais disons qu'elle se défend beaucoup moins bien contre les agressions.
Régis Lipinois, vous êtes en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes apiculteur, donc on dit Fouras ou Fouras, pardon ?
On dit Fouras.
Fouras, en Charente-Maritime, voilà, dans le 17. Et vous avez proposé de parrainer des ruches pour participer justement à la sauvegarde des abeilles avec l'association Un Toit pour les Abeilles. Expliquez-nous cette opération, à qui elle s'adresse d'abord ?
Elle s'adresse aux entreprises et aux particuliers. Et tout simplement, on va aller installer des ruches soit sur les toits des entreprises, soit sur des terrains un petit peu partout en France. Et on va expliquer aux entreprises et aux particuliers la problématique de l'abeille, avec la possibilité de suivre la ruche tout au fil des saisons, avec des nouvelles des apiculteurs et l'explication de la vie de la colonie. Et ensuite, le plaisir de déguster un miel à son nom, à ses couleurs pour une entreprise et pour un particulier, par exemple, ça peut être le nom d'un enfant pour un cadeau, quelque chose comme ça.
Alors, c'est une proposition que vous faites justement face à la diminution des abeilles, hein.
Oui, exactement. C'est le projet est parti de ça à l'origine. En fait, il nous a complètement dépassé puisqu'on était sur une initiative qui était vraiment locale autour de La Rochelle, Fouras et à proximité de La Rochelle. Et en fait, on a été un peu happé par le sujet puisqu'on a eu des centaines de particuliers. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000 et des centaines d'entreprises aujourd'hui avec plus de 500 entreprises qui nous ont contacté très rapidement pour participer à ce projet-là. Donc on a créé un réseau d'apiculteurs sur toute la France et voilà, le service s'est déployé de façon un peu plus rapide qu'on l'avait prévu.
Ouais, qu'est-ce que vous attendez alors concrètement de ces parrainages ?
Alors deux choses. La première chose, c'est l'entreprise et Internet avec les particuliers, c'est un très bon vecteur pour sensibiliser les gens, évoquer le problème et échanger autour du problème de l'abeille, mais aussi de problèmes un petit peu plus vastes. Puisque vous le disiez tout à l'heure, l'abeille aujourd'hui est devenue un symbole très très fort. Il y a aussi quelque chose qui marche bien avec l'abeille, c'est le capital sympathie. Comme on a pu avoir une époque avec le petit bébé phoque, tout le monde l'aimait bien. Je sais pas si vous vous souvenez de ces images où on voyait des hommes avec des matraques qui allaient tabasser des bébés phoques sur la banquise, ça a fait le tour du monde. Ben, l'abeille, ça marche de 7 à 77 ans et c'est aussi un symbole très fort de la dégradation de l'environnement. Et soyons clairs, c'est l'homme qui a créé ça. Donc ça, c'est la première chose, la sensibilisation. Et puis tout simplement, c'est aussi soutenir les apiculteurs. Puisque dans ce mode de fonctionnement, on aide au développement des apiculteurs en finançant l'achat de colonies ou la création de nouveaux essaims. Et ensuite, il y a un fonctionnement un petit peu en AMAP, c'est-à-dire qu'on connaît le prix de vente à l'avance et on connaît la quantité qu'on va vendre à la fin de l'année. Donc ça permet aux apiculteurs d'être rassurés sur ça.
Donc c'est pour vous aussi une façon de soutenir la profession, alors qui est en danger aujourd'hui ou pas, selon vous ?
Clairement, je pense que si rien ne change dans les 10 ou 15 ans à venir, il y aura pratiquement plus d'apiculteurs en France. À cause des problèmes bien évidemment qu'on a évoqués, et puis aussi de ses concurrences avec des miels à bas coût venus du reste de la planète dont on connaît absolument pas l'origine. Donc ça, c'est aussi un problème. Et c'est un métier magnifique qui existe depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années. Et en France, on a un réel savoir-faire, donc ça serait vraiment dommage d'arrêter ça et de stopper cette activité autour de l'abeille.
Régis Lipinois, pour ceux qui souhaitent donc vous rejoindre et vous soutenir en parrainant donc des ruches, c'est un site internet qui est à disposition du public?
Oui, exactement, un site, untoitpourlesabeilles.fr, où vous avez toutes les informations et puis la quarantaine d'apiculteurs qui participent aujourd'hui au projet.
Merci beaucoup, le lien est évidemment sur le site de la Tête au Carré. Bonne journée à vous, donc à Foura, en Charente-Maritime. Pierre-Henri Tavoyot, des philosophes des poètes comme Virgile ont fait des recommandations très précises, hein, des recommandations apicoles. Là, on a vraiment des professionnels aussi qui nous disent comment faire avec une ruche. Il y a plein de conseils qui sont encore valables d'ailleurs aujourd'hui. Hein.
Oui, alors ça fera plutôt demander à Saint-François, mais c'est ce qui est très impressionnant dans toute cette poésie, c'est le mélange. Alors Virgile est de ce point de vue-là, hein, la quatrième Georgique, un texte extraordinaire parce que c'est un texte d'une poésie sublime qui comporte une dimension technique d'une précision et d'une perfection impeccable encore aujourd'hui, avec des conseils effectivement d'installation formidables. Et puis en plus, il y a de l'idéologie politique, c'est-à-dire que Virgile n'a pas fait ça n'importe quoi, n'importe comment et pour n'importe quelle raison. C'est un tract de propagande en faveur d'Octave qui vient de prendre le pouvoir et qui va devenir Auguste, parce qu'il faut, après la guerre civile romaine, réinstaller la Rome ancienne dans une logique un peu révolutionnaire conservatrice. Hein. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et donc, il y a aussi cette dimension politique. Et l'abeille, de ce point de vue-là, est un formidable vecteur, puisqu'on peut dire que tous les régimes politiques ont été pensés à travers la ruche. Tous, sans exception. La monarchie, parce qu'il y a une reine. La république, parce que il y a les soldats.
Le communisme.
Le communisme. Ouais. Bon, l'abeille et l'architecte de Marx, ça serait le contre-exemple, puisque Marx dit que l'abeille, justement, n'est pas un architecte. Mais on trouve d'autres textes qui témoignent du fait que l'abeille est communiste, avec l'idée d'une propriété commune. L'anarchisme, avec Proudhon. Le libéralisme politique. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est le grand texte fondateur du libéralisme.
Et même le féminisme.
Et le féminisme. Bachofen, ou la matriarcat, texte allemand. Alors le libéralisme politique, parce que le grand texte fondateur du libéralisme, c'est la fable des abeilles de Mondeville, qui est un texte vraiment très drôle et qui raconte effectivement l'histoire d'une ruche.
Allez, on vous retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre entretien autour de ce livre, L'abeille et le philosophe, et c'est chez Odile Jacob.
Tout le monde est là. Table étanche et la bague au doigt, les mariés voient des anges. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans l'air. Y'a des fleurs beaucoup, des bouquets de fleurs. Fou, passe la cinquième. Quelqu'un tient le bout dans son verre, un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. L'après-midi danse, un tango cuivré, le soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe pendant ce temps-là, allongé dans. allongé dans l'air.
Et c'est Thomas Dutronc à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Pierre-Henri Tavoyot et son frère François Tavoyot sont nos invités pour parler de l'abeille et le philosophe. Ce livre donc aux éditions Odile Jacob, les mythes autour des abeilles, la pensée occidentale et puis la ruche 2.0 aussi, hein, François Tavoyot, parce que ça se modernise quand même dans votre secteur. Ça ressemble à quoi une ruche 2.0 alors? C'est juste un effet de style ou...
C'est un effet de style mais qui remonte à vieux. Il y a une métaphore qu'on retrouve omniprésente tout au long des siècles, c'est la métaphore du butinage. Mmh. Et du butinage comme image de la connaissance. Donc pour faire court, comme la connaissance, le butinage c'est une collecte. Comme la connaissance, le butinage c'est une synthèse. Parce qu'à partir de différentes fleurs, on va faire un miel qui se trouve unique. Mmh. Donc cette métaphore, c'est, disons, un nouvel avatar de cette métaphore se retrouve actuellement avec le butinage comme pollinisation. C'est-à-dire que le butinage c'est non seulement une récolte, mais c'est aussi quelque chose qui donne, qui retourne sur l'extérieur. Et donc, c'est un économiste, Yann Mouly-Boutan, qui va utiliser cette métaphore pour présenter le système Google. Parce que comme, de la même façon que l'abeille va chercher du miel et en même temps pollinise les cultures, et en fait donne beaucoup plus de valeur en pollinisant les cultures qu'en récoltant du miel, de la même façon, les internautes, en cherchant de l'information sur Google, vont faire des petits clics et en fait vont donner une information au système qui pourra être utilisée à des fins publicitaires, mais qui a une valeur sans commune mesure avec ce qu'ils ont récolté.
Donc on butine aussi évidemment sur nos claviers et on aide à l'élaboration aussi d'une structure à l'échelle mondiale, voilà. Hein, de la pensée. Alors c'est vrai que effectivement les mythes autour des abeilles ont marqué des générations et la philosophie, la pensée occidentale, mais également des générations d'enfants, c'est bien sûr Maya l'abeille. Voilà, Pierre-Henri Tavoyot, grâce à vous, tout le monde a chanté dans le bureau de la Tête au Carré en réécoutant le générique de Maya l'abeille. Ça a fait émerger une bulle de souvenirs qui a éclaté comme ça de façon totalement inattendue. C'est incroyable quand même ce générique, comme il a marqué. Ouais, hein.
Alors c'est vrai que l'histoire est un peu triste.
Voilà, c'est ça, parce que là on parle de l'abeille brune, en l'occurrence dans votre livre. Parce que là on a cette série japonaise au départ, mais c'est d'abord un livre écrit par un Allemand qui a une histoire beaucoup moins recommandable.
Qui est un livre publié en Allemagne en 1912. Et quand on a fêté l'anniversaire, la Süddeutsche Zeitung en Allemagne a fait une enquête sur Bonsel, c'est quand même quelqu'un de pas très recommandable. C'est un être un peu bizarre qui a fait le siège du parti nazi parce qu'il voulait absolument être nazi et on l'a même jeté à la porte parce qu'il était un peu particulier, un peu extrême. Et en fait, c'est vrai que son œuvre n'est pas quand même extrêmement glorieuse. C'est un anarcho érotique un peu bizarre.
Kitsch antisémite.
Et alors, c'est vrai que dans Maya l'abeille, il faut reconnaître le texte correct. Sauf une partie à la fin où manifestement il y a quand même quelque chose d'assez nationaliste et assez un peu brutal. Donc voilà, Maya, c'est très beau.
C'est la face sombre.
C'est un peu l'abeille brune.
Vous nous cassez notre plaisir. Là,
désolé.
Coup, franchement. Mais enfin voilà, il fallait le dire parce que c'est l'histoire véritable autour de Maya l'abeille. Il y a beaucoup de choses intéressantes aussi au niveau scientifique dans le livre et en particulier autour des premiers microscopes parce que la première chose qu'on a étudiée, c'est l'abeille. C'était au XVIIe, c'est ça?
C'est ça, c'est à l'époque du pape Urbain VII, Barberini, qui était d'ailleurs l'ami et le protecteur puis l'accusateur de Galilée et qui a au sein de l'Académie des Lynx à Rome qui met en pratique les premiers microscopes et la famille Barberini était son emblème c'était l'abeille et pour son sacre à Rome ce pape a couvert Rome littéralement d'abeilles et les artistes qui voulaient lui plaire jusqu'à plus soif lui offraient des abeilles dans sous toutes les formes et dans cette académie, première observation mondiale de l'abeille, d'une image au microscope, et c'est une abeille qui est dessinée. Ouais.
Donc c'est la mise à nu de l'abeille, et c'est une véritable révolution quand même à l'époque. Il faut se rendre compte de ce que ça représente, quoi. On choisit cet insecte.
Oui, on choisit cet insecte. Alors, encore une fois, parce que c'est le microcosme, là on reste aristotélicien, on essaie de chercher, comme Galilée avec les télescopes, ouais, on essaie de les secrets du cosmos, on cherche dans le microcosme les secrets du petit. Et là, on va découvrir effectivement à partir de là que la Vierge n'est pas si vierge que ça, en l'occurrence, qu'elle a des ovaires, qu'elle a des œufs, probablement aussi quelques prétendants. Donc cette découverte va arriver comme par hasard en Angleterre à l'époque d'Élisabeth Ière, la reine vierge. Mm-hmm. Vous voyez, donc sans arrêt une connexion entre l'observation de l'abeille et le contexte politique, mm-hmm, et historique. C'est ça qui est fascinant, ouais, dans cette histoire.
Et dès Virgile, dès Aristote, on va se poser la question de l'espérance de vie aussi des abeilles. Ça fait partie des questions scientifiques qui sont posées par les philosophes depuis très tôt, hein.
Oui, donc là avec des réponses par contre qui sont assez fantaisistes, disons que au niveau de la ruche, donc une abeille ne vit pas très longtemps. C'est-à-dire en fonction de la saison, elle va vivre soit quelques semaines, soit, mmh, quelques mois. Je veux dire quelques semaines les périodes où la reine pond beaucoup, quelques mois les périodes où la ponte va diminuer.
Et une reine, ça vit combien de temps alors par rapport à une
reine,
petite ouvrière?
Une reine, ça peut vivre jusqu'à 5 ans dans
la
pratique.
Quand même, donc c'est pas du tout la même chose, hein.
Et pourtant c'est le même œuf à l'origine. Ouais. Je veux dire que ça aussi c'est quelque chose qui est étonnant et qui a mis longtemps à émerger, puisqu'en, mmh, fait on en a été sûr qu'au début du 19e siècle, l'ouvrière est une femelle comme la reine. Simplement, c'est la différence d'alimentation entre les deux qui, mmh, va faire que l'une va se développer en femelle prodigieusement féconde, mais inapte au travail, oui, et l'autre va se développer en ouvrière stérile.
Pierre-Henri Tohaillot, pour terminer, il y a des choses assez amusantes. On retrouve Voltaire et Madame du Châtelet, hein, dans ce livre, qui font partie de l'ordre de la mouche à miel, par exemple. Et puis, autour de cette époque aussi, il y a toute une querelle autour des alvéoles, mais il y a des choses incroyables quand même.
C'est-à-dire quoi ? Oui, parce que alors là, on revient à l'abeille philosophe. Nul n'entre à l'académie s'il n'est philosophe, disait Platon. Bien, oui. S'il n'est géomètre, pardon. Eh bien, l'abeille est géomètre, c'est-à-dire que l'alvéole apparaît comme la figure géométrique parfaite, à tel point d'ailleurs qu'on avait envisagé au XVIIIe siècle d'en faire l'unité de mesure universelle avant le mètre, c'est-à-dire que l'alvéole, qui ne change pas dans toute l'histoire de, ouais, l'humanité, semblait être l'unité de mesure absolue. Donc c'est très très impressionnant. Et l'abeille qui produit cette alvéole, alors est-elle géomètre d'elle-même ? Est-ce le grand dessein divin qui la rend géomètre ? Ou est-ce, comme le pensait Buffon, simplement le hasard de la mécanique qui fait que elle produit ses formes. Mmh. Et là, il y a une querelle, une violence absolument inouïe entre Buffon, Réaumur, Condillac et bien d'autres, qui est tout à fait fascinante. Là encore, l'abeille est parée de
Et c'est un aveugle qui va débloquer la situation.
Génial, François Huber.
Il faut quand même le faire.
Enfin, François Huber, c'est quelqu'un vraiment d'étonnant. Oui. Je veux dire que sur plein de points, il va résoudre les problèmes. Et quelqu'un qui ne voyait pas apporte la solution.
Et justement, sur le mode de reproduction des abeilles, hein, c'est lui qui va apporter une réponse à cela.
Tout à fait.
Entre
et donc, par rapport à la fécondation de la reine, c'est lui qui va voir le premier, la reine, se faire féconder.
Voilà, un philosophe et son frère apiculteur, Pierre-Henri Tavoyot et François Tavoyot. Vous signez donc ensemble L'abeille et le philosophe, étonnant voyage dans la ruche des sages. Et c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Et puis, bon retour donc en Haute-Loire, François Tavoyot. Vous avez un site internet où on peut voir aussi le miel que vous produisez. Et on peut voir ce que vous faites dans vos ruches.
Même pas. On est accaparé par le travail sur les ruches. Du coup, on néglige un peu la communication.
Pas de buzz.
Il n'y a pas de buzz autour des ruches. En tout cas, on peut le déguster quand même, votre miel. Ah, merci beaucoup. Merci d'être venu, au revoir. Ainsi s'achève cette tête au carré. Merci à Violaine Ballet qui réalisait l'émission, Jean-Michel Montu qui en signait la programmation musicale, Henri Bérec était à la technique aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Demain, nous fêterons les 20 ans de la main à la pâte. Et dans un instant, c'est Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bonne journée. We'll be right back.